Bonsoir. Nous sommes très heureux de recevoir ce soir Frédéric Joly pour la biographie qu'il vient de faire paraître, qui s'intitule « Robert Musil, tout réinventé ». Frédéric Joly est traducteur de l'allemand. Il a traduit notamment Walter Benjamin, Georg Simmel et aussi beaucoup d'écrivains allemands ou germanophones contemporains. Et il a été aussi précédemment éditeur. Alors, la biographie de Robert Musil est passionnante. Robert Musil est né en 1880 à Klagenfurt, en Autriche. Et il meurt au mois d'avril 1942 à Genève. Alors ma première question va porter sur le titre, tout simplement, de cette biographie. Pourquoi ce sous-titre, tout réinventé à propos de la vie et l'œuvre de Robert Musil ?
Réinventé parce que, comme vous l'avez dit, Musil est quelqu'un qui naît en 1880, c'est-à-dire qu'il a, 20 ans en 1900, au tournant du siècle, c'est-à-dire qu'il est, il est un jeune adulte et donc suffisamment adulte pour partager tous les espoirs qui peuvent être entretenus en Europe au moment où celle-ci change de siècle. Et il a donc 34 ans au moment où la Première Guerre mondiale éclate. C'est-à-dire qu'il va se retrouver en 1914, comme tous les gens de sa génération, et comme tous les hommes de bien d'autres générations, hein, de 18 à 55 ans, il va se retrouver sur le front. Il va se retrouver sur le front italien, en l'occurrence, pendant 5 ans. Ce sont des années perdues pour tout le monde. Et ce sont des années perdues pour l'écrivain. Et en 1920, donc, quand il va retrouver une Vienne qui n'est plus une Vienne impériale, qui est la Vienne qu'on appelle Vienne la Rouge, c'est-à-dire une Autriche plongée dans une très très grande incertitude politique, morale, intellectuelle, il sera très très frappé par le fait suivant, comme beaucoup de gens qui auront combattu 5 années durant, il sera très frappé par l'espèce d'atonie morale ou intellectuelle de cette société. Comme si ces 5 années de tuerie, au fond, n'avaient servi strictement à rien. Et c'est contre cette atonie-là, contre cette incapacité à tirer les leçons de cet événement qui était insensé, quand même, qu'il souhaitera opérer en tant qu'écrivain ce qu'on peut appeler un saut. Là, je vais citer une poétesse, Ingeborg Bachmann, qui est très importante, un saut cognitif et moral. Il ressentira la nécessité absolue d'aller à l'encontre de cette espèce d'atonie, de cette espèce de paralysie morale. Voilà pourquoi tout réinventer, parce que la très grande œuvre dans laquelle il va se lancer, qui est « L'homme sans qualité », qui va l'occuper jusqu'à sa mort, hein, puisque c'est une œuvre, je le rappelle, pour ceux qui l'ignorent, qui est inachevée, est une œuvre d'une ambition folle. C'est une œuvre qui dresse le tableau d'une civilisation finissante, enfin, on en parlera tout à l'heure, on aura le temps d'y revenir, mais qui ne dresse pas que ce tableau-là. C'est une œuvre qui se propose véritablement d'offrir de nouvelles perspectives à l'homme. D'où le titre « Tout réinventé ».
Alors, Musil se cherche quand il est jeune. Il occupe différents emplois, mais qui ne le satisfont pas. Et en définitive, il décide de se consacrer à l'écriture. Donc, il choisit ce travail d'écrivain avec de très grandes exigences. Mmh. Et avant de se mettre à l'écriture de l'homme sans qualité, donc après la guerre de 14-18, il a publié déjà d'autres ouvrages et notamment le désarroi de l'élève Torlès, qui rencontre un certain succès. Il s'essaie aussi, ou il va s'essayer au théâtre, à l'écriture dramatique. Et en même temps, il écrit pour lui des journaux qui sont plutôt des cahiers, en quelque sorte, des cahiers de réflexion dans lesquels il réfléchit. Il réfléchit beaucoup. C'est aussi quelqu'un qui s'est intéressé à la philosophie et aux sciences. Et c'est quelqu'un donc qui a une très haute ambition intellectuelle, pour lui-même en tout cas. Pas en tant que spécialiste. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop les spécialités d'ailleurs. Mais alors comment peut-être pourrait-on présenter ses premiers travaux de littérature ?
Pour saisir le geste de l'écrivain, je pense qu'il faut évoquer rapidement la société qui est la sienne, en fait. Donc, je l'ai dit, il a 20 ans en 1900. Il naît dans un empire, l'empire austro-hongrois, qui est un empire finissant. En 1900, pas encore tout à fait, mais on sent la fin approcher. C'est quelqu'un, ça c'est très important, qui est sans véritable attache. C'est-à-dire qu'il il ne ressent pas d'attachement fort pour l'Empire. Il considère même que l'idée de culture viennoise ou de culture autrichienne frise l'imposture. Et de fait, on glosse souvent beaucoup sur la culture viennoise. On présente souvent Vienne comme une sorte d'épicentre de la culture européenne tout au long de la première moitié du siècle. Moi, j'ai voulu, avec ce travail, aller quand même à l'encontre de cette idée-là. Parce que si effectivement Vienne est une ville qui culturellement est d'une très grande richesse, c'est tout de même une culture officielle. La culture qui est défendue, soutenue par l'Empire, l'est à la condition de se mettre au service d'une sorte d'identité nationale. Et toutes les démarches qui vont importer à cette époque, je veux dire, en musique avec Schoenberg, Berg, Webern, en peinture, en littérature, Freud avec la psychanalyse, évidemment. Toutes ces démarches-là, les plus novatrices, les plus exigeantes, se font vraiment dans un isolement presque total. Schoenberg est conspué, en fait. Freud, à cette date, est reconnu, mais il n'est pas forcément reconnu à Vienne même. Musil se sent véritablement comme un étranger. Tout le monde se moque à Vienne de ce que fait Musil. Et il est vrai qu'il ne fait pas énormément d'efforts pour attirer l'attention de la ville. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que Vienne n'est pas l'épicentre de la culture européenne qu'on a pu présenter, à mon sens. D'où le fait, très très vite, après effectivement, comme vous l'avez dit, des études militaires, des études d'ingénieur, le choix de partir à Berlin, qui est la capitale des lettres germanophones, le choix de partir à Berlin pour suivre des études de philosophie et surtout tout autant pour fuir cette pseudo-culture qui, au fond, l'oppresse et dont il sent qu'elle ne lui est pas particulièrement propice, en fait. Mais j'ajouterais que ces années berlinoises ne vont pas durer si longtemps que ça, pour plusieurs raisons, essentiellement pour des raisons matérielles. Et là, on trouve un motif fondamental de cette existence, c'est la pauvreté. C'est que très très vite, Musil va connaître de graves difficultés matérielles. Il va rencontrer ces difficultés matérielles pour une raison à la fois simple et terrible, dans sa logique. C'est qu'il va se consacrer très vite exclusivement à l'écriture, en s'engageant dans une voie extrêmement exigeante, totalement porte-à-faux avec des considérations commerciales ou éditoriales. Et donc, C'est cette volonté de se consacrer exclusivement à l'écriture, tout en s'engageant dans une voie qui le condamne quand même à une certaine confidentialité, qui va le précipiter dans une situation matérielle très difficile, et situation qui va au fond l'obliger à revenir à Vienne, ce qui n'était pas du tout prévu pour lui. Parce qu'il vivra vraiment ce retour à Vienne comme une régression, un échec existentiel. J'ajoute que ce retour à Vienne est provisoire, puisque, au fond, et ça c'est un aspect qui m'a énormément intéressé dans ce livre, et c'est un motif important de cette existence, c'est les allers-retours permanents entre Vienne et Berlin, pour diverses raisons, à chaque fois. On pourra revenir sur certaines. Et cette difficulté à trouver un environnement propice, et qui n'ira qu'allant en s'aggravant au fil des années, évidemment, puisqu'on va le voir, la situation historique, la dégradation politique permanente de l'Europe tout au long des années 20 et des années 30 ne fera qu'aggraver encore, évidemment, ces grandes difficultés et ce sentiment d'étrangeté au monde, ce sentiment de... Oui, voilà.
Alors effectivement, se pose la question de la réception de son œuvre. Alors il a la chance, malgré tout, dans un premier temps, que son premier livre, Les désarrois de l'élève Thorless, rencontre un grand succès, hein, et un grand succès de vente aussi. Ouais. Et donc, ça va être pour lui une carte de visite, hein, qui va être très importante tout au long de sa carrière. Et d'ailleurs, dans ses rapports avec les différents éditeurs, Musil va toujours demander à ce qu'on réédite ses ouvrages précédents, et notamment celui-là. Alors, la question de la réception, elle est quand même très importante, parce que, comme vous l'avez dit, Musil sait très bien que le travail qu'il mène, qui est un travail très exigeant, qui est un travail pionnier et même, on pourrait dire, expérimentateur d'un point de vue littéraire, il sait très bien que ce travail ne s'adresse pas à un très, très large public. Et d'un autre côté, il aspire à une reconnaissance, à une reconnaissance du public, et d'abord certainement de ses pairs. Il va trouver cette reconnaissance de certains de ses pairs, notamment celle du grand écrivain de l'ère germanophone, qui est Thomas Mann, qu'il commence d'ailleurs par prendre peut-être d'un peu haut, parce que justement, le succès de Thomas Mann n'est pas celui auquel il aspire lui-même, mais il se trouve que Thomas Mann va malgré tout ultérieurement beaucoup l'aider.
Oui. Les désarrois de l'élève Thorless, qui effectivement est son premier roman, comme vous l'avez dit, est son seul et unique succès de son vivant. Et c'est un très beau succès. C'est aussi d'ailleurs ce succès-là qui incite Musil à se consacrer corps et bien à la littérature. C'est un point important. On a une période qui s'étend du début des années 1900 à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire aux années 20, c'est-à-dire une longue période, hein, quasiment entre 15 et 20 ans, une période très particulière où on a un écrivain qui fait ses armes, c'est-à-dire qui élabore son éthique, sa morale du travail, son univers mental, intellectuel, et qui, une fois passé ce très grand succès, va rencontrer d'énormes difficultés d'écriture en raison des objectifs très très ambitieux qu'il se propose. Et une période de dépression noire qui durera très longtemps et qui s'explique en partie justement par le retour à Vienne que j'évoquais tout à l'heure. Les désarrois de l'élève Thorless, on est en 1906, le livre est publié en 1906, donc grand succès. Musil va se consacrer jusqu'au début de la Première Guerre mondiale à des nouvelles. Parce qu'à ce moment-là, il a le sentiment que le format de la nouvelle, qui est un format court, est plus propice, plus adapté à ses ambitions. Mais il aura énormément de difficultés à les mener à bien. Donc dépression, difficulté d'écriture, difficulté matérielle. Il y a un séjour à Rome de quelques mois qui lui permet de de se refaire une santé, disons. Un retour à Berlin, où, par un concours de circonstances assez heureux, mais qu'il s'est provoqué, il se voit confier la direction de la plus belle revue littéraire de l'époque, la revue littéraire des éditions Fischer, qui est un peu l'équivalent de la nouvelle revue française des éditions Gallimard dans les années 20. C'est une revue très prestigieuse. Il se voit confier la direction de cette revue, mais hélas pour lui, on est en 1914 et la guerre éclate à l'été 14. Mais enfin, ces quelques mois à la tête de cette revue, qui sont des mois de... Il a un travail d'éditeur, vont lui permettre d'abord d'essayer de convaincre un certain nombre d'écrivains qu'il admire d'écrire pour la revue. Il va par exemple essayer de convaincre Franz Kafka d'écrire pour la revue. Qu'il rencontrera à Prague pendant la guerre à l'occasion d'une hospitalisation, puisqu'il tombera très malade sur le front. Il ne va pas réussir à convaincre Kafka de publier dans sa revue, mais enfin une relation s'instaure.
Et
Kafka...
il s'agit ici de la Métamorphose, voilà, ce qui n'est pas rien.
Ce qui n'est pas rien. Kafka va lui envoyer le manuscrit de la Métamorphose. Et hélas, pour Musil et pour Kafka aussi, le manuscrit sera jugé beaucoup trop long, beaucoup trop massif pour la revue. Ça, c'est... les grands écrivains, parfois, se croisent et se ratent. C'est un poste qui lui permet aussi, et c'est très important, de rencontrer des personnalités qui, d'une manière ou d'une autre, vont intégrer après le grand roman L'homme sans qualité. Par exemple, c'est au cours de ces années-là que Musil rencontre Walter Rathenau, qui deviendra le ministre des Affaires étrangères de la République de Weimar. Qui à l'époque est un financier et homme d'affaires qui est déjà très influent. Et qui vraiment à cette date représente un certain avenir de l'Allemagne, c'est-à-dire d'une Allemagne moderne, démocratique. Rathenau défend l'idée d'une communauté européenne déjà à cette époque, d'une union économique transfrontalière. C'est quelqu'un qui représente un certain avenir démocratique de l'Allemagne et qui se fera assassiner en 1922. Par un commando, la Légion Condor liée au Corps France, c'est-à-dire la forme préliminaire du parti nazi. Mais voilà, il y a des rencontres. Musil, à cette époque, a un esprit très très aiguisé, très très lucide sur la situation politique. Il essaye de repérer les personnalités phares qu'il incarne, qui incarnent toutes les contradictions de cette Europe qui va basculer dans le chaos total, en fait.
Et en même temps, c'est quelqu'un qui, dans son écriture, a des exigences très spécifiques, et même, on pourrait dire, singulières. Et par exemple, il ne choisit pas la voie, par exemple, de la narration, mais ce qui l'intéresse, c'est autre chose. Alors, il n'est pas non plus expressionniste, mais ce qui l'intéresse, c'est un travail très précis, très détaillé, sur certaines images ou sensations et idées, parce qu'il y a les deux chez Musil. Il y a à la fois un souci de décrire très précisément ce qui est ressenti, et en même temps, il y a aussi un intérêt très grand pour ce qui est de l'ordre de l'idée, de l'intellect. Est-ce que vous pourriez préciser comment ces soucis s'articulent dans ces exigences littéraires ?
Un point important, c'est qu'il refuse une séparation qui, à l'époque, est très, très en vogue, enfin très importante, c'est qu'il refuse d'opposer la rationalité scientifique et par exemple, la question de la mystique, qui est très importante pour lui. C'est un grand lecteur des mystiques rhénans, de Maître Eckhart, grand lecteur d'Augustin aussi. Il considère que l'opposition rationalité scientifique-mystique, par exemple, n'est pas valide. Ce qui ne veut pas dire qu'il les verse dans l'irrationalité, contrairement à beaucoup de monde à cette époque, du tout. L'une de ses ambitions est de parvenir à réaliser une sorte de synthèse des deux, ce qui se traduit sur le plan littéraire par une ambition qui est toujours de décrire avec le maximum d'exactitude, le maximum de description, tout ce qui échappe ordinairement à la description. Je pense à, par exemple, il s'intéresse beaucoup à des états limites, par exemple. La psychose l'intéresse beaucoup. Une amie d'enfance, l'épouse de son meilleur ami, a sombré dans la maladie psychotique, a été internée définitivement d'ailleurs. La maladie mentale l'intéresse. J'ai dit que la mystique l'intéressait. Il s'intéresse énormément à la mystique féminine, par exemple. Les mathématiques l'ont convaincu qu'il fallait refuser le distinguo rationalité scientifique mysticisme. Par exemple, les mathématiques lui ont appris que les nombres irrationnels étaient bien plus nombreux que les nombres rationnels. Et pour lui, il s'agit précisément d'une justification très, 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 très profonde au fait que des facteurs, ce qu'il appelle les facteurs irréels, doivent être introduits dans la démarche intellectuelle. Mais encore une fois, il ne s'agit jamais de verser dans l'irrationalité. Jamais. Mais il refuse ce qu'il appelle le rationalisme de poisson séché, c'est-à-dire un rationalisme qui refuse l'aventure.
Et en même temps, chez lui, il y a un intérêt pour ce qu'il appelle le possible par rapport au réel. Et quand il présente des personnages dans ses nouvelles ou même ensuite au théâtre, il y a toujours cet intérêt pour les montrer en mouvement, dans des métamorphoses, et pour montrer... Alors c'est pour ça aussi qu'il refuse déjà ce qu'on pourrait appeler une caractérisation qui figerait en quelque sorte les personnages, mais il s'intéresse à la vie de ces personnages dans ce que cette vie peut avoir d'imprévu, d'ambigu, mais aussi de créateur, hein, de vivant. Il s'oppose à tout ce qui est figé, en quelque sorte.
Ça, on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, le sentiment qu'il a eu en 1919-1920, une fois la Première Guerre mondiale terminée, d'avoir affaire à une société profondément... sclérosée, atone. Je vais me permettre, c'est très court, ce sont quelques lignes. Ce sont des lignes d'une poète, Ingeborg Bachmann, qui n'est pas du tout de la même génération, qui est bien plus proche de nous, qui est décédée dans les années 70, qui a écrit des lignes merveilleuses sur Musil. J'en profite d'ailleurs pour dire que c'est une très grande poète, et Gallimard vient de publier un volume de poésie d'elle qui est magnifique. Qui mérite d'être lu avec le Musil. Bachmann, elle ne parle pas dans ses lignes que de Musil, hein. Elle parle d'autres écrivains, mais elle dit quelque chose qui me paraît très très juste et qui entre en résonance avec ce que vous venez de dire. Au sujet de l'écriture, donc, avec un nouveau langage, on rencontre toujours la réalité là où se produit un saut moral et cognitif, et non là où l'on tente de renouveler le langage en lui-même, comme si le langage pouvait faire surgir de lui-même la connaissance et faire connaître de lui-même l'expérience qu'on n'a jamais eue. Et là, c'est important. Là où l'on se borne à manipuler le langage pour donner l'impression de le renouveler, il a tôt fait de se venger et de démasquer l'intention de renouveau. Un nouveau langage doit avoir une nouvelle démarche, et il n'a cette démarche que lorsqu'il est habité par un nouvel esprit. Voilà. Le nouvel esprit, c'est, je crois, ce qui... résume absolument l'état d'esprit de l'écrivain en 1920, cette volonté d'opérer un saut cognitif et moral en tablant sur l'ouverture, en tablant sur les possibles, comme vous venez de le dire. Mais ça, c'est un point qui entre aussi en résonance profonde avec sa vision de l'histoire.
Et même de l'existence personnelle.
Et aussi. De l'existence personnelle. Musil, alors j'en profite pour le dire, Musil n'est pas un philosophe. Il n'a pas au sens où il n'a pas de système philosophique. Mmh. C'est vraiment un écrivain. Mmh. Il a sa philosophie. Il lit les philosophes avec passion, mais il n'a pas de système philosophique. Mais s'il n'a pas de système philosophique, il lui arrive d'élaborer des idées. Et une idée fondamentale chez Musil est le principe de raison insuffisante, qui traduit assez d'ailleurs son humour philosophique. Parce que ça, je crois qu'il est très important de le dire, c'est que c'est une œuvre qui est traversée de bout en bout par un humour terrible, vraiment un humour extraordinaire. Souvent noir d'ailleurs, mais... Le principe de raison insuffisante aux yeux
de... C'est le contre-pied du principe de raison suffisante de Leibniz.
Voilà, c'est ça. Qui, à ses yeux, explique le caractère aléatoire et répétitif de l'histoire. L'histoire est totalement aléatoire, comme une masse nuageuse, comme le mouvement d'un gaz. Aux yeux de Musil, dans notre vie historique et publique, ne se produit jamais que ce qui n'a pas de raison valable. C'est un point tout à fait capital dans sa vision du monde, mais qui ne traduit pas de pessimisme particulier. En fait, ce n'est pas un auteur pessimiste, contrairement à beaucoup d'auteurs de cette époque, comme on pense tout de suite à Spengler, par
tout
exemple.
Tout à fait. Mais, de l'Occident.
Mais de grands romanciers qui sont les exacts contemporains de Musil, pour beaucoup, sont de grands pessimistes. Hermann Broer, par exemple. Beaucoup envisagent l'histoire comme une espèce de perpétuelle dégradation des valeurs. Et ce n'est absolument pas le cas de Musil. C'est une phrase, je trouve, qui traduit beaucoup sa vision du monde, qui a confirmé lui-même qu'il n'était pas un pessimiste en disant que s'il n'aimait pas l'espèce humaine, il adorait les défis qui étaient proposés à l'espèce humaine. Et voilà, je pense que ça donne, je crois, une idée de...
Oui, c'est quelqu'un qui a le goût de l'aventure, en définitive, de l'aventure et de la création.
De l'aventure, de la création, et qui considère qu'il n'y a jamais de dégradation inéluctable. L'histoire est un processus parfaitement ouvert. Il ne dénigre pas, par exemple, l'idée de progrès, simplement, il considère que l'homme ne fait pas l'histoire. Mais ce n'est pas à ses yeux, parce que l'homme ne fait pas l'histoire, que le progrès n'existe pas. Le progrès peut intervenir, mais toujours d'une façon parfaitement incontrôlée et incontrôlable.
C'est pour ça qu'il choisit comme expression la littérature, justement. Parce que la littérature porte attention non seulement au particulier, mais même au singulier, alors que la philosophie est souvent dans l'universel ou dans le général.
Et le système.
Et le système, oui.
Voilà.
Tout à fait. Alors, on pourrait peut-être dire un mot aussi de l'intérêt pour le théâtre aussi de Musil.
Oui.
Et pour ses pièces.
D'abord, il faut dire que Musil est un très grand dramaturge. Il a été de son vivant un dramaturge très malheureux, puisque quand ces pièces ont été jouées, ce qui a été très rare, elles ont été horriblement mises en scène, à chaque fois des massacres atroces. Donc, ce qui l'a conduit à arrêter d'écrire du théâtre, alors qu'il aimait passionnément le théâtre. On peut citer une grande pièce, qui est Les Exaltés, qui n'est pas très jouée, mais qui est, je dirais, joué tous les 10 ou 15 ans, il y a une belle mise en scène des Exaltés, en France comme en Allemagne. Emmanuel Riva a joué dans les Exaltés dans les années 60. Il y a eu une très belle mise en scène dans les années 90 de Patrick Agiag. Ça fait un certain temps que les Exaltés n'ont pas été joués, mais c'est une très grande pièce. Et on y retrouve évidemment tous les grands thèmes de Musil.
Il y a eu la malchance de ne pas être immédiatement mise en scène au théâtre au moment où elle a été écrite. Et donc, le Musil a publié le texte alors que la pièce n'était pas jouée.
C'est ça, ce qui est rare d'ailleurs.
Oui, ce qui
est rare et qui est généralement synonyme d'échec. Et ça n'a pas manqué, puisque personne ne l'a lu à l'époque. Encore une fois, on en revient au fait que Vienne était une ville certes dynamique culturellement, mais qui privilégiait surtout le sympathique, le plaisant,
Oui, d'ailleurs, vous l'expliquez bien. Là, vous donnez vous dites que Musil avait un rapport avec deux des responsables du Burgtheater,
oui.
Et que l'un des deux était plutôt bienveillant, mais que l'autre était totalement à côté de la plaque et tout ce qui l'intéressait, c'était uniquement de faire du chiffre.
Des succès, disons, assurés.
Oui, oui.
Voilà.
Oui.
Et naturellement, Musil n'a jamais écrit une ligne de sa vie qui relève du succès assuré.
Tout à fait.
Mais je crois que c'est l'occasion de rappeler que quand on parle de Musil, on pense spontanément à l'homme sans qualité, on pense spontanément au désarroi de l'élève Torlus, mais il faut dire que le théâtre, il y a un volume aux éditions du Seuil qui, comme tous les autres, a été traduit merveilleusement par Philippe Jacotet.
Ça, c'est une chance que Musil a eu en France d'être traduit par Jacotet.
Voilà, Jacotet qui, pour ceux qui ne le savent pas, fait partie des très rares écrivains qui ont été publiés de leur vivant dans la Pléiade. Hein. Le Pléiade de Jacotet est paru l'année dernière chez Gallimard. Et donc,
Jacotet est toujours vivant.
Hein. Il est toujours vivant.
Il vit à Grignan.
C'est
hein,
ça.
Il est originaire du canton de Vaud, hein, en Suisse. Il a un de ses neveux qui est éditeur aussi.
C'est un très grand écrivain, très discret, donc relativement pelu, mais très grand écrivain, et donc publié de son vivant La Pléiade, ce qui n'est pas rien. Ils sont tout de même peu nombreux. Donc Musil a eu la chance d'avoir ce très grand traducteur, et j'en reviens à l'œuvre de Musil traduite par Jacotet. Si effectivement on pense surtout au désarroi de l'élève Torlus et à l'homme sans qualité, le volume de théâtre est une merveille. Il y a deux volumes de journaux qui sont très impressionnants aussi. Il y a un volume d'essais et il y a plusieurs recueils de nouvelles.
Ainsi que ses lettres, c'est un peu différent.
Ainsi que ses lettres qui ont été évidemment un support de travail pour moi central. Voilà pour ce qui est du théâtre.
Alors peut-être qu'on peut... Bon, alors, vous voulez peut-être dire un mot des essais avant d'en venir à l'homme sans qualité, peut-être ?
Ce qu'on peut dire des essais, c'est que Musil a toujours reconnu qu'il y avait dans son tempérament, dans son caractère, une sorte de composante, ce qu'il appelait une composante autiste. Mmh. C'est-à-dire qu'il a toujours vécu à demi détourné de son temps, mais à demi seulement. C'est-à-dire qu'il a, malgré tout, toujours suivi avec une attention extrêmement vive et précise la vie culturelle et politique de son temps, et qu'il lui est arrivé de la commenter, d'intervenir publiquement, du moins jusqu'aux années 30. Date à partir de laquelle il a cessé toute intervention publique. Mais jusqu'aux années 30, il a une activité, disons, d'intellectuel public relativement riche, ce qui l'a conduit à écrire des essais. Et la forme essai importe pour lui. L'essai est très important. L'essai est une manière de raffiner sa pensée en la confrontant à des objets très concrets.
D'autant plus que les essais étaient publiés dans des revues. C'était donc un moyen très important d'avoir un rapport avec un public aussi.
Exactement. Et d'ailleurs, par ailleurs, de gagner sa vie aussi.
Tout à fait.
Puisque la gagnant d'ordinairement très mal, l'essai court était un moyen d'avoir une source de revenus minimale à intervalles réguliers.
Alors on peut en venir au gros morceau, disons, qui est l'homme sans qualité. Alors peut-être qu'il faudrait apporter quelques précisions sur le titre de cette œuvre.
Voilà, ça c'est l'homme sans qualité. On devine que le titre est riche de signification, mais on ne voit pas très bien ce que c'est. On se doute bien qu'il ne s'agit pas simplement d'un homme qui n'a aucune qualité. Je vais me permettre, dans la mesure où c'est un point qui est important et qui est précis, je vais me permettre de lire quelques lignes du livre qui seront plus précises qu'une simple improvisation et qui permettent de comprendre tout, en fait. Car je vais notamment citer une phrase de Philippe Jacotet qui permet de saisir le mouvement même du grand roman. La qualité pour Musil, en fait, elle revêt plusieurs significations. Il n'y a pas une qualité univoque, une signification univoque de la qualité, pardon. Plusieurs dimensions qui, en apparence, sont contradictoires. La qualité, d'abord, par opposition à l'essence ou à la substance.
Voilà, c'est d'abord un mot philosophique, d'abord.
Hein. Voilà, c'est ça. Est en partie ce vêtement qui vient recouvrir le vide, le dissimuler. Et lorsque le vide est partout, comme par exemple en Autriche-Hongrie dans les années précédant la Première Guerre mondiale, car je le rappelle, le théâtre de l'homme sans qualité, c'est l'Autriche-Hongrie de la Première Guerre mondiale, ce qu'il va appeler la cacanie. La cacanie qui n'est pas une plaisanterie sur le caca, mais qui est une référence à la double nature impériale et royale de l'Empire austro-hongrois.
Avec deux cas, donc.
Voilà, kaiserlich und königlich. Donc, lorsque le vide est partout, comme par exemple en Autriche-Hongrie dans les années précédant la Première Guerre mondiale, tout le monde en est donc revêtu, à un point tel qu'il n'existe alors plus que des qualités, c'est-à-dire un empire, un pays fait de qualités sans hommes. Mais il existe une seconde signification de la qualité. La qualité n'est pas que simple attribut, elle est aussi synonyme d'assise, de cohérence interne. Elle vient donner au moi un point d'appui, elle vient garantir une certaine stabilité de l'identité personnelle. L'absence de qualité est donc à la fois une maladie et une chance. Une maladie parce que l'individu moderne qui en est affligé est absolument dépourvu de centre de gravité, mais elle est aussi une chance, parce que la conscience de cet état peut être occasion de s'y confronter, pourquoi pas de le dépasser. Donc, Ulrich va dessiner...
Qui est le personnage principal.
Voilà, Musil va dessiner un personnage au fil des années, parce que tout ça va durer très longtemps, en fait. On a affaire à quelqu'un qui se consacrerait bien à l'écriture sur plusieurs décennies, qui, en ces lendemains de Première Guerre mondiale, va se lancer d'abord dans plusieurs chantiers romanesques différents, qui finalement vont finir tous par confluer, pour ne plus en former qu'un seul, avec ce grand personnage, qui est Ulrich. Ulrich, donc, incarnera à lui seul cette absence de qualité, ce mal du siècle, la conscience même de ce mal, et surtout la volonté de le dépasser. Et donc, comme a pu le rappeler Philippe Jacotet, le traducteur de toute l'œuvre, Ulrich, et c'est une phrase capitale et qui permet en fait de comprendre tout le roman, Ulrich aimerait ne plus être un homme sans qualité, c'est-à-dire qu'il aimerait parvenir à une cohérence et à une cohésion profonde, sans pour autant devenir un homme à qualité, c'est-à-dire un homme à attributs. Voilà. Ulrich est en fait en quête d'une vie juste, de nouvelles possibilités encore inexplorées. Il est une multitude de possibilités privées de centre. En fait, le personnage incarne l'irrésolution même, l'irrésolution intellectuelle, l'irrésolution du sentiment. Mais Ulrich a une quête qu'il refuse d'abandonner et qu'il poursuivra comme l'écrivain jusqu'au bout.
Et qui est une forme de plasticité, finalement.
C'est ça. Et qui est aussi, en partie, la quête de l'écrivain. Et c'est ce qui est très intéressant quand on étudie la vie de Musil et la genèse de ce projet, c'est qu'on voit très bien que la quête de l'écrivain partage énormément avec la quête du personnage, sans pour autant partager absolument tout. Et ce qui est tout à fait fascinant, en fait, c'est de voir que la quête du personnage se déroule dans cet empire austro-hongrois finissant de l'avant Première Guerre mondiale, hein, on est en 1914, alors même que la quête de l'écrivain, elle, se déroule plus tard, c'est-à-dire elle va se dérouler dans les années 20 et les années 30, dans une toute autre société, en fait, parce que la société des années 20 et des années 30 a peu à voir avec la société des années 10, mais ces deux sociétés-là partagent une seule et même chose, c'est la perspective d'un effondrement sûr et certain. Et donc là, on a quelque chose d'assez fascinant, une sorte de démarche. Ce sont des démarches spirituelles. Hein. Musil utilise le terme. C'est un roman très particulier. On n'a pas du tout affaire à un roman traditionnel comme La montagne magique de Thomas Mann. Où on a affaire à une aventure spirituelle. Et là, bien évidemment, on en vient aux raisons de de ce qu'on peut appeler un inachèvement. Moi, je préfère appeler peut-être d'un inaccomplissement, parce que l'inachèvement était peut-être programmé. La nature même de la quête spirituelle, très certainement, imposait par définition l'infini, en fait, l'infini de l'écriture.
Dans une page de votre livre, vous citez Musil, qui lui-même compare son projet en acte, qui est l'homme sans qualité, aux œuvres, à de grandes œuvres auxquelles on pourrait, en tout cas a priori, les comparer, qui sont l'œuvre de Proust et l'œuvre de Joyce.
Oui.
Mais Musil prend bien soin de distinguer son projet de celui de Proust et de celui de Joyce. Pourriez-vous préciser cela ?
Oui, parce que c'est une affaire complexe, hein, où il est question du rapport à la langue, du rapport à la psychologie, à la psychanalyse. Mais disons que Musil s'engage dans une voie qui est au fond très peu conciliable avec les grands principes de la narration romanesque. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien dans les désarrois de l'élève Torlès que dans les nouvelles ou dans le théâtre. On assiste à une sorte de refus radical de tout ce qui relèverait de la causalité. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il a cette réputation d'écrivain déroutant, et il l'est par bien des aspects, mais ce n'est pas parce qu'il est déroutant qu'il est difficile. Je ne pense pas que Musil soit un auteur difficile. Il est simplement déroutant parce que les repères ordinaires qu'offre la structure narrative traditionnelle se diluent très vite avec lui. Il se dilue très vite parce que tous les personnages sont en quête. Et au cours de cette quête, il peut même leur arriver d'échanger leur propre caractère. Voilà. Ce qui, évidemment, contribue à désarçonner le lecteur. Mais je pense que c'est une œuvre qui propose sans doute l'une des très grandes aventures spirituelles du siècle, en fait.
Et alors, c'est aussi parce que Musil attend un processus un peu similaire dans l'esprit du lecteur lui-même. C'est-à-dire qu'il voudrait que le lecteur lui-même ne se fige pas, mais en quelque sorte soit sensible à ses qualités d'ouverture au possible. Et il me semble que c'est très important, ceci. C'est-à-dire qu'au fond, il ne choisit pas de privilégier la narration, qui est le mode dominant du roman, mais justement, ce qu'il attend, c'est que le lecteur, en quelque sorte, entre dans ce jeu d'une écriture ouverte à ce choix des possibles, à cette ouverture. Au fond, ce qu'il attend, c'est que c'est de trouver un lecteur différent du lecteur traditionnel.
Que le roman se propose quasiment même de créer, en fait.
Voilà, voilà.
C'est ça qui est très beau. Ce qu'on peut dire, je dirais, parce que c'est très difficile de saisir l'œuvre parce qu'elle est d'une ampleur hors norme, mais on trouve des pages qui relèvent de la narration traditionnelle lorsqu'il est question, ça c'est une invention absolument géniale, de l'action parallèle. L'action parallèle, c'est une des très belles idées de ce roman, est un regroupement, une association de personnalités de la Kakani, dont l'objectif est d'insuffler de la signification, au fond, dans une société qui en semble de plus en plus dépourvue. Et ça, c'est un point, je crois, qui est très important, que je pense aborder, que je voulais aborder ici, c'est qu'il y a une très grande réflexion sur la question du crédit et de la croyance.
Oui.
Dans l'homme sans qualité. Il s'agit du tableau d'une société qui est en train de perdre le bien le plus précieux pour une société, pour un individu d'ailleurs, qui est la croyance en soi. C'est une société qui perd la croyance en elle-même, c'est-à-dire c'est une société dont ses membres cessent de... en laquelle ses membres cessent de croire. Et il y a une réflexion très profonde et qui, me semble-t-il, est d'une actualité totale sur les rapports de la croyance et du crédit au sein de la société. On l'a vu ces dernières années, par exemple, notamment avec la Grèce, on cesse de faire crédit à partir du moment où une croyance disparaît, une confiance disparaît. Bon, d'ailleurs, c'est l'occasion de dire qu'un des grands points communs, je pense, entre Musil et Nietzsche, c'est qu'il y a tout un vocabulaire économique chez eux qui sert à rendre compte de ce qui a lieu ailleurs, et notamment dans le geste consistant à introduire du sens. L'action parallèle, cette espèce d'association de personnalités très imbues de leur mission, consiste d'une certaine manière en une opération de renflouement. Il s'agit de renflouer la société en signification. Ça, c'est, je dirais, un des grands aspects du premier volume du roman, et qui relève pour le coup un minimum de la narration romanesque traditionnelle. Ulrich, d'ailleurs, participe à l'action parallèle. Ulrich est très ouvert, on l'a dit, vous l'avez dit. Donc il est ouvert à toutes les expériences, y compris aux expériences dans lesquelles il ne croit absolument pas. Et il ne croit pas beaucoup en l'action parallèle, ce qui ne l'empêche pas d'y participer, dans l'absence la plus totale d'illusion. Mais il arrivera un moment où Ulrich, constatant l'échec de l'action parallèle, décidera de s'engager dans une voie beaucoup plus intime, beaucoup plus individuelle, et aux accents, je dirais, quasiment mystiques.
Alors là, il faudrait peut-être dire un mot de la décision de publier, qui est une décision plus éditoriale que de la part de l'auteur Musil, de publier donc plusieurs volumes, des volumes séparés. C'est un petit peu d'ailleurs le même processus auquel s'est trouvé confronté Proust quand les éditeurs ont voulu saucissonner en quelque sorte ce qui, dans l'esprit de Proust, devait constituer un unique volume. Donc pour des raisons d'édition, il fallait donc diviser en volumes divers, successifs. Alors est-ce que vous pourriez préciser justement l'histoire d'abord de cette parution en deux volumes déjà, et deux volumes qui ne sont pas définitifs, en quelque sorte.
C'est ça. C'est intéressant parce que ça permet aussi d'éclairer l'époque. C'est-à-dire que le premier volume paraît en 1930. C'est un succès relatif, d'ailleurs. Succès critique, surtout. Pas un succès commercial, sans être un échec pour autant. Et le deuxième volume va paraître à la toute fin de l'année 32, c'est-à-dire quelques mois, semaines...
Peu de temps après, finalement.
Oui,
30-32,
oui,
deux ans.
Ouais. Ce deuxième volume va paraître donc quelques semaines avant l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne. Autant dire qu'il va paraître dans une sorte d'indifférence à peu près.
Parce que Revolte, lui, est domicilié à Berlin. Hein, voilà, l'éditeur est berlinois.
Voilà, l'éditeur de Musil est berlinois et surtout lui a imposé ce découpage. C'est-à-dire qu'effectivement, Musil, comme Proust, avait l'ambition de donner un seul et unique volume. Dans un premier temps, il reconnaîtra que donner un seul et unique volume est injouable. Il se résoudra à une publication en deux volumes. Et c'est finalement l'éditeur qui lui imposera le saucissonnage que vous évoquez en trois volumes. Saucissonnage qui, au fond, ne prendra jamais véritablement forme, puisqu'il n'y aura jamais, du moins du vivant de Musil, de troisième volume. Puisque... On est au début des années 30. Les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne en mars 33. Et tout va devenir évidemment... Tout était déjà très compliqué. Et tout ne cessera plus de devenir encore plus compliqué. Musil, qui partage en bonne partie l'aventure de son personnage, décidera au fond de tournera le dos à toute considération commerciale, éditoriale, refusera désormais de se faire dicter la moindre chose par un éditeur.
Et il en ressent même une espèce de jubilation là même presque à ce moment. Enfin,
oui,
c'est
ça.
En tant qu'auteur, je veux
une
dire.
Une jubilation désespérée parce que. Les choses vont aller vite. Hein. 33, arrivée des nazis au pouvoir. En 35, Musil est invité à Paris par Gide et par Malraux
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est à Vienne. Il quitte Berlin et il vit à Vienne. Ouais.
Il va assister à l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne. Il en est complètement horrifié. Il retourne à Vienne. En 1935, Gide des Malraux l'invite à Paris au congrès des écrivains pour la défense de la culture, où il est naturellement où il n'est question que de la situation politique européenne catastrophique. Hein. Gide des Malraux essayant de convaincre l'opinion publique pour le dire un peu grossièrement, de jouer la carte Staline contre la carte Hitler. C'est plus subtil que ça, mais enfin, on peut le résumer ainsi. Ce que refuse de faire d'ailleurs Musil. En 1938, Anschluss, rattachement forcé de l'Autriche à l'Allemagne nazie. Et toutes ces années, Musil, qui travaille dans une sorte d'épuisement, dans des difficultés matérielles de plus en plus terribles. Vraiment, il va passer quasiment de la pauvreté à la misère à certains moments. Il ne doit sa survie matérielle qu'à des associations qui... Ça, c'est peut-être un des rares points communs avec Joyce. Joyce a vécu grâce à des associations de mécènes. Ça a été la même chose pour Musil, qui a vécu d'abord grâce à une première association, Robert Musil, berlinoise, et ensuite... grâce à une deuxième association Musil, viennoise celle-là. Bref, la situation matérielle s'aggrave au fur et à mesure de l'aggravation de la situation politique. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une sorte de jubilation de l'écrivain, jubilation désespérée, à refuser toute considération commerciale et éditoriale et à poursuivre cette aventure dans des conditions qui deviennent, sur le plan matériel, quasiment absurdes, en fait. Puisque les deux associations de mécènes vont être dissoutes. Pour l'essentiel, ce sont des lecteurs fortunés, des amateurs d'art, juifs pour la plupart. Donc des gens qui fuient.
Musil n'est pas juif, hein, lui.
Non, son épouse l'est.
Voilà.
Donc les associations sont dissoutes. Il ne peut compter que sur le soutien de mécènes parisiens qui met des sommes absolument dérisoires. Et l'Anschluss donc va les forcer, son épouse et lui, à partir en exil pour la Suisse, où là on assiste alors à une sorte quasiment de radicalisation totale de cette existence, de cette aspiration et de ces difficultés, puisque là on arrive vraiment au pic de la misère, de l'effort. Effort surhumain, hein. 15 heures à la table de travail, de l'angoisse, angoisse matérielle, angoisse politique, jusqu'à la mort brutale le 15 avril 1942, avec un accident vasculaire cérébral qui, pour le coup, rend définitivement inachevable l'homme sans qualité. Mais le livre, je crois, je l'espère en tout cas, le montre. Un inachèvement qui avait bien plus à voir avec la logique même intrinsèque à cette œuvre qu'avec la disparition brutale, bien sûr.
Alors sa veuve va publier dans un premier temps un ensemble de textes qui constitue ce qu'on pourrait appeler la deuxième partie de la deuxième partie, hein, en quelque sorte. Ouais. Et partie qui est inachevée en définitive, hein, puisque oui. Musil continuait à écrire, il envisageait, il avait même en projet d'autres livres aussi.
Oui, tout à fait.
Et donc, alors, une première publication par Martha Musil, qui va mourir quelques années plus tard, en 1949, il me
semble.
C'est
ça, oui.
Et ensuite, il y aura d'autres éditions. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de ces éditions suivantes ?
Ce qu'on peut dire brièvement, c'est qu'effectivement, au moment où Musil meurt, c'est un auteur qui est sans éditeur, sans lectorat, puisque la plupart des auteurs, comme lui, du monde germanophone, ont vu leurs livres, dans le meilleur des cas, exclus des bibliothèques, généralement même brûlés. Donc c'est un homme qui meurt à 62 ans après avoir consacré son existence entière à l'écriture, sans éditeur, sans lecteur, et quasiment... Enfin, il part en exil en Suisse avec, on peut dire grosso modo, un exemplaire de chacun de ses livres, peut-être deux exemplaires. Donc c'est un homme qui se demande véritablement à la fin de sa vie si parce qu'en 42 il faut essayer de se mettre dans la situation de l'époque. En 42 on ne sait pas comment tout ça va finir.
Bien sûr.
Donc
surtout en mars 42.
Voilà.
On est avant Stalingrad.
C'est
hein.
ça. La bataille de Stalingrad ne débutera qu'au mois de juillet.
Voilà.
Donc il meurt en ne sachant absolument pas si cette œuvre d'une vie survivra. Enfin, il n'est absolument pas certain de laisser la moindre trace. Et
il n'a pas d'héritier non plus.
Enfin, il n'a pas d'enfant.
Sa femme a deux enfants, mais voilà. Lui n'en a pas.
Lui n'a pas d'enfant. Donc, véritablement, c'est un homme qui meurt dans l'incertitude la plus totale quant à la trace qu'il laissera ou pas. Et de fait, quand il meurt, les livres sont à peu près indisponibles. Et donc, l'homme sans qualité tel qu'on peut l'acheter en librairie aujourd'hui, tel qu'il est disponible aux éditions du Seuil, que ce soit en poche ou en grand format, c'est d'une certaine manière presque un petit miracle, hein, ou même un grand miracle, de l'avoir dans cet état parachevé sur le plan éditorial. Ça, il faut dire, hein, il y a eu des éditions scientifiques, il y a eu le grand travail de traduction de Philippe Jacotet. Il a fallu que beaucoup de gens y consacrent un travail inouï tout au long des années 50, 60 et 70, et encore même tout au long des années 2000, puisque la dernière et définitive édition de L'Homme sans qualité a été élaborée au début des années 2000. Pour parvenir à ce résultat-là. Oui.
Oui, c'est un petit peu d'ailleurs la même, enfin, en pire, si j'ose dire, que la situation de l'œuvre de Proust avec les éditions de La Prisonnière et du Temps retrouvé. C'est un peu du même ordre, puisque Proust n'avait pas non plus mis la dernière touche à ses textes. Et donc, il a fallu les recomposer, les abouter les uns aux autres, en éliminer peut-être certaines parties, etc.
Et je crois que c'est peut-être en guise de conclusion. Ce qu'on peut dire, c'est que le caractère inachevé ou inaccompli de l'homme sans qualité ne veut pas dire pour autant qu'on aurait affaire à une sorte de monstre déroutant, intimidant. Il y a une sorte de cohérence profonde dès le départ, tout au long de cette œuvre, jusqu'au bout, qui fait de cette lecture... Quand on parvient au bout de L'Homme sans qualité, on n'y parvient pas en ressentant, face à cet inachèvement, de la frustration. Ce n'est pas un inachèvement qui frustre. On a affaire à quelque chose, un mouvement de fond, d'une richesse tellement inouïe qu'elle...
Oui, parce que justement,
qu'elle interdit tout sentiment il n'y a pas d'échec de L'Homme sans qualité, c'est pas un échec.
Voilà. Oui, parce qu'à la limite, à la différence d'ailleurs peut-être de l'œuvre de Proust, Proust a mis le mot fin hein, sur un exemplaire, c'est pas le cas chez Musil, parce que au fond, son œuvre est une œuvre fondamentalement ouverte, pour reprendre l'expression d'Umberto Eco. Hein.
Exactement, et c'est au fond ce qu'est le manuscrit en l'état.
Oui, tout à fait. Eh bien, merci. Merci beaucoup.
Merci de votre présence.